Catherine Lara et puis Elba Ramalho, le Brésil. Comme je vous le disais en tout d'émission, dans Remue Ménage, Onde Femme, Radio Zone 93.8, j'ai envie de commencer aujourd'hui à vous parler, de vous lire en quelques pages le témoignage de Mary, appelée aussi Oiseau Courageux dans sa tribu, et qui raconte son histoire dans un livre qui s'appelle La Femme Lakota, qu'elle a écrit en connivence avec Richard Erdos. Son autobiographie, elle la raconte de façon courageuse, pas trop passionnée, de façon parfois très poétique. En tout cas, nous découvrons quelle est la vie de cette jeune femme qui, dans les années 60 et 70, a rejoint le mouvement de la renaissance de la fierté des Indiens, comme ils traduisent ce mot, si je vous traduis littéralement, et qui, entre autres, était menée par celui qui allait devenir le mari de Mary Oiseau Courageux, qui s'appelle Leonard Crow Dog. C'est pour ça qu'aujourd'hui Mary s'appelle Mary Crow Dog. et qui était donc un homme médecine, l'homme médecine, le chef du mouvement, et qui a fait revivre, entre autres, par exemple, la danse du fantôme, qui était une danse sacrée, mais interdite pendant très longtemps. Alors, c'est l'histoire de la lutte, la détermination de Mary Oiseau Courageux pour résister aux cruautés que les Anglo-Américains ont fait subir aux Indiens amérindiens américains du Nord pendant plusieurs décades, et surtout sa victoire contre ce monde hostile en tant que femme. Alors, je me propose de vous faire partager les premières pages du témoignage de Mary Oiseau Courageux. Je suis Mary Oiseau Courageux. Après la mort, après avoir eu mon enfant pendant le siège de Wounded Knee, ils m'ont donné dans ma tribu un nom spécial, Hoitika Win, c'est-à-dire femme courageuse. Et ils ont attaché dans mes cheveux une plume d'aigle et ont chanté des chants pour les cœurs courageux. Je suis une femme de la nation rouge, de la tribu Sioux. Et ce n'est pas facile. J'ai eu mon premier enfant pendant qu'il y avait un combat avec des tirs de fusil qui traversaient une paroi de la maison où j'étais pour ressortir de l'autre côté. Lorsque mon enfant nouveau-né avait seulement un jour, eh bien, les troupes américaines de l'armée des États-Unis ont vraiment ouvert le feu sur nous. Alors, il a fallu que j'enveloppe mon enfant dans une couverture et que j'essaye de m'enfuir pour le faire échapper à ce massacre. Lorsque j'ai couru hors de la maison, je suis tombée plusieurs fois par terre et chaque fois, je protégeais mon enfant avec mon corps en me disant « Si je meurs, eh bien, tant pis, mais pourvu, s'il vous plaît, laissez vivre mon enfant. » Lorsque j'ai réussi à sortir de Wounded Knee, je n'étais même pas guérie, relâchée de mon accouchement et ils m'ont mis en prison. Je me suis fait arrêter et mis en prison dans le village de Pine Ridge. Ils ont pris mon enfant. Et naturellement, je ne pouvais pas le nourrir. Mes seins dégoulinaient et étaient durs comme des cailloux, me faisant très très mal. En 1975, les soldats, l'armée américaine, a envoyé ses M16 contre ma tribu et m'a menacé à la tête avec leur mitraillette, moi aussi dans la prison, me menaçant de me faire éclater la tête. C'était vraiment difficile d'être une femme indienne. Ma meilleure amie, qui s'appelle Annie May Aquash, une jeune et solide femme de la tribu des Micmac, avait de magnifiques enfants. C'est pas toujours une chose très sage, si je puis dire, pour une femme indienne, d'être trop solide. En l'occurrence, Annie May a été trouvée morte dans la neige, au fin fond d'un ravin, dans la réserve de Pine Ridge. La police a dit qu'en fait, elle était morte d'être restée au froid, mais alors qu'en fait, c'était un tir de calibre 38 que l'on a retrouvé dans sa tête. Le FBI a coupé ses mains et les a envoyées à Washington pour une identification des traces de doigts, je ne sais plus le mot. Et ces mains qu'on lui a coupées, qui avaient aidé mon enfant à venir au monde, puisqu'elle était à mes côtés lorsque j'ai accouché de mon premier enfant. Une autre histoire de femme très dure en tant que femme indienne, c'est celle de ma belle-sœur, Delphine, qui était une femme très bonne et qui a vécu une vie dure et qui a aussi été trouvée morte dans la neige avec des larmes gelées sur son visage. Un homme sous l'avait battue, avait cassé un de ses bras et ses jambes et l'avait laissée sans secours dans la forte tempête, et elle en est morte. Ma sœur Barbara a été à l'hôpital gouvernemental à Rosebud pour accoucher de son enfant. Et lorsqu'elle est ressortie après son anesthésie, elle est revenue à la conscience après les anesthésies, eh bien, elle a découvert qu'elle avait été stérilisée contre sa volonté. Et son enfant a vécu seulement 2 heures. Et bien sûr, elle aurait voulu plus d'enfants. Vraiment, la vie des femmes indiennes n'est pas facile. Alors, lorsque moi, j'étais une petite fille, eh bien, je me suis retrouvée à l'école catholique de San Francis, où c'était des sœurs qui s'occupaient de nous et qui n'hésitaient pas à nous fouetter pour ce qu'elles appelaient la désobéissance. À 10 ans, je pouvais boire et encaisser une pinte de whisky. À l'âge de 12 ans, les nonnes me battaient parce que, selon elles, j'étais trop libre avec mon corps. Tout ce que je faisais, en fait, c'était de tenir la main d'un garçon. À l'âge de 15 ans, j'ai été violée. Et si vous espérez naître, mieux vaut pour vous de naître blanc et garçon. Le plus dramatique, enfin le plus important de tout ça, c'est que simplement être un Indien et essayer de mener votre vie, garder votre langage, garder vos valeurs et être en même temps entouré d'étrangers, eh bien, c'est une chose extrêmement difficile. Et en plus, ma situation, qui était celle d'être une Iyenska, c'est-à-dire un demi-sang, puisque ma mère est indienne et mon père est blanc, c'était être en fait rejeté à la fois par les blancs et aussi un peu par la tribu dans laquelle je vivais. Et donc, en plus, j'ai vécu à un moment donné en ville et c'était encore une façon de me faire rejeter par la tribu que j'ai rejoint plus tard. Tout ça, c'est les difficultés d'être une femme et d'une femme indienne. Parmi les tribus des plaines, eh bien, il y a des hommes qui pensent que toute femme est tout juste bonne à s'occuper des enfants et à être à leur service. Et ils essayent de compenser en maltraitant les femmes tout ce que la société blanche leur fait. Et les fameux guerriers et chasseurs d'autrefois, depuis que le bison est parti, eh bien, ils se vengent sur les femmes qui les entourent. Alors, dans une prochaine émission dans Remue-Ménage, Onde Femmes, Radio Zone 93.8, eh bien, je me propose de vous raconter la suite de la vie des femmes indiennes de l'Amérique du Nord, racontée par Caroline Hammer, et puis l'histoire racontée par Mary Crowdog, aussi qui s'appelle Mary Oiseau Courageux, qui nous raconte sa vie de femme Lakota. Pour aujourd'hui, eh bien, j'arrête l'histoire des femmes indiennes et je donne la parole à une Canadienne que vous connaissez sûrement aussi, qui s'appelle Diane Tell, et qui, un de ces soirs à Morges, au théâtre de Beausobre, se glissera dans le rôle de Marilyn Montreuil, la dernière comédie musicale mise en scène par Jérôme Savary du Magic Circus autrefois, et qui vous propose une histoire qui ressemble fort à certains Lemchaud, où Marilyn Monroe s'illustrait bien évidemment, et c'est Diane Tell qui sera dans le rôle de Marilyn Montreuil. Mais pour aujourd'hui, eh bien, nous nous contenterons d'avoir les chansons du dernier disque de Diane Tell, entre autres « Dégriffe-moi ».
La marque au cou sur mon col du lit. Ne pas passer. Dérive-nous, dérive-moi. Je veux pas qu'on cause de nous comme ça. L'étiquette l'infidole. Pour la première des autres fois, se demandera pas non, non. 60% tranquille,
Donc c'est le dernier disque de Diane Tell que vous êtes en train d'écouter. Si vous avez la possibilité, allez au Théâtre de Beausobre à Morges, l'écouter dans la comédie musicale Marilyn Montreuil, mise en scène par Jérôme Savary du Magic Circus. Elle y a toute sa place en tant que petite chanteuse rock qui va se raconter une histoire très drôle avec des danseurs de flamenco déguisés en chanteuses. Enfin bref, paraît-il, l'histoire de certains Lemchos dans lequel s'était brillamment illustrée Marilyn Monroe. Ce dont je veux vous parler encore juste avant la fin de l'émission, c'est d'une exposition qui a lieu au Forum de l'Hôtel de Ville à Lausanne jusqu'au 14 mars et qui a pour titre « Le bénévolat, pas sans moi ». Alors, de quoi parlons-nous ? Eh bien, c'est une exposition qui évoque le bénévolat, mais pas du tout dans l'optique du temps des dames patronaises, mais au contraire, avec la nouvelle optique de ce que pourrait être le travail bénévole. Et les nouveaux bénévoles tiennent à faire savoir qu'ils conçoivent leur travail autrement, et c'est pour cela qu'ils ont consacré une exposition à ce phénomène. Et bien sûr que... On reconnaît qu'actuellement, et c'est par exemple Bruno Clément qui est l'animateur qui a entre autres participé à l'élaboration de cette exposition et qui est animateur du service d'entraide bénévole de la région lausannoise, le SEB, service d'entraide bénévole, et qui dit que bien sûr il est vrai que les femmes représentent encore près des deux tiers de la main d'œuvre bénévole et qu'on les retrouve non seulement à la base des associations mais surtout dans les postes cadres où elles sont en majorité par rapport aux hommes. Et c'est vrai aussi que c'est bon nombre de femmes et qui sont là parce qu'elles n'ont pas de métier. Alors, que recherchent-elles dans le bénévolat ? Semble-t-il un moyen d'acquérir une certaine reconnaissance sociale et aussi, surtout, une formation et des qualifications qui seront utiles pour une éventuelle insertion professionnelle. C'est en quelque sorte un peu une forme d'éducation populaire, explique Bruno Clément. Mais il dit que, bien sûr, il ne faut pas se leurrer. Il y a de plus en plus de femmes déjà engagées dans la vie professionnelle qui s'engagent dans le travail bénévole et elles ne sont pas les seules. La plupart des bénévoles, ou beaucoup de bénévoles aujourd'hui, ce qu'on pourrait appeler les nouveaux bénévoles, ont en fait un travail à côté. Et donc, le bénévolat, dans ce sens-là, est en train de négocier un véritable tournant. Alors, je vous encourage à aller voir cette exposition pour découvrir que le bénévolat d'aujourd'hui est en train vraiment de remplacer les canaux associatifs traditionnels. Et peut-être nous aurons l'occasion d'accueillir dans notre émission quelqu'un qui a participé à l'élaboration de cette exposition, je vous le rappelle, qui a lieu au Forum de l'Hôtel de Ville à Lausanne jusqu'au 14 mars. Et pour finir les quelques 1 minute et demie qui nous reste à passer ensemble, eh bien, je vous repropose quelques notes de Diane Tell et je vous retrouve la semaine prochaine. À bientôt dans Remue Ménage, Onde Femme, Radio Zone 93.8.
Cette fois le compte du bon, tu sais ce qui t'attend, si tu touches.